Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Alors, ce matin, je suis dans la grande joie de me retrouver dans cette merveilleuse et grande assemblée. Et je voudrais dire merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être comptés parmi les vivants ce matin. Mais également, je voudrais remercier le révérend pasteur paroissial, papa qui nous a donné la grâce de pouvoir servir Dieu dans cette église et avec tous les membres du conseil pastoral qui travaillent avec lui. Ce matin, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de servir le Seigneur au milieu de vous. Mon nom, c'est Richard Malingoulé. Peut-être certains d'entre vous me connaissent. Je suis l'un des pasteurs associés à l'église Arche de l'Alliance Goma, une des églises sœurs de notre paroisse ici. Et je travaille sous la responsabilité et la direction de Papa Eston, le révérend Eston, que pour la plupart vous connaissez. Et c'est à ses pieds que nous avons appris à connaître le Seigneur. Nous avons servi Dieu, nous avons découvert même notre appel ministériel et nous continuons à servir à ses pieds. Je voudrais le remercier aussi, bien qu'à distance, parce que c'est avec son autorisation que je suis parvenu à venir servir le Seigneur ici. Alors, je suis père de 5 enfants et marié à une seule épouse. Mon épouse s'appelle Jacqueline. Je vous prie de l'accueillir, je ne suis pas venu seul, elle peut juste se lever pour que l'assemblée. Merci beaucoup. Elle est une grande bénédiction dans notre parcours sur la terre et dans le service pour Dieu. Alors, la responsabilité qui m'a été confiée, elle est très grande parce que parler pendant une semaine au peuple de Dieu, c'est une très grande responsabilité. Il y a un aîné qui disait, avoir le micro, c'est une chose, mais avoir quelque chose à dire qui édifie, qui soutient, qui bénit, c'est une autre chose. C'est pourquoi j'aimerais solliciter que vous puissiez prier pour le prédicateur, alléluia, prier pour le prédicateur, en fait, que pendant cette semaine, nous puissions avoir un message qui nous édifie, qui nous bénit et qui nous soutient. J'ai reçu donc la responsabilité de parler à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, à l'exception de samedi. Et chaque jour, nous allons être ici pour parler d'une vie diaconale parfaite et sainte pour la gloire de Dieu. Alors, je vais vous demander que vous puissiez être participatifs avec moi. Est-ce qu'on peut répéter ensemble, mener une vie diaconale parfaite et sainte, et pour la gloire de Dieu. Pendant toute la semaine, voilà la pensée que Dieu a mis sur le cœur de son serviteur comme la direction de son peuple pendant cette semaine. J'ai donc appris que chaque année, nous avons un mois qui est dédié à la diaconie, et pendant ce mois de l'année, une semaine est réservée afin que nous parlions de la vie diaconale. Le sujet, il est vaste. Le sujet, il est très complexe. Et je pense l'aborder dans cette direction pendant cette semaine. Et un texte m'a été proposé. J'aimerais que nous puissions lire ce texte. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9e. Et le Saint-Esprit m'a conduit à ajouter 2 ou 3 autres textes. Nous allons les lire aussi ce matin afin de poser le fondement biblique de cet enseignement pour la semaine entière. La pensée de cette semaine, elle est tirée dans le livre de la première épître de l'apôtre Pierre. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, et nous lirons à partir du verset 12. Alors, dans la façon de travailler cette semaine, je vais vous demander une ou deux choses. La première, c'est que chaque fois, nous lirons les versets bibliques ensemble. Quand nous les lisons ensemble, ça donne vie. Et même quand vous le lisez dans votre Bible à haute voix, c'est un processus d'appropriation. La deuxième chose que je vais vous demander, ça va être un minimum de patience, parce que nous allons lire probablement plusieurs versets, afin que ce qui est dit soit non pas des choses qui sont comme des expériences ou des intentions des hommes, mais des choses qui ont leur fondement dans la parole de Dieu. Alors ce matin, lisons ensemble et à haute voix, chacun dans sa Bible, peu importe la version papier ou je ne sais pas, téléphone, tablette, nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Allons-y. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12, c'est intéressant. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 1er et juste deux versets. 1 Corinthiens, chapitre 4. Le chapitre 4, nous lisons rapidement le premier et le deuxième verset. Allons-y encore ensemble. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Je m'arrête ici. Si vous n'avez jamais souligné cela dans votre Bible, soulignez la partie « Nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu ». Dans d'autres versions, il est dit « Nous sommes des distributeurs ». En d'autres termes, des personnes qui portent les choses divines et qui doivent le faire arriver à destination. Verset 2e, allons-y encore une fois. « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle ». Nous allons progresser dans la deuxième lettre de Paul, 2 Corinthiens, chapitre 8. Je vous ai demandé un peu de patience parce qu'on va lire certains passages pour construire la pensée. 2 Corinthiens, chapitre 8, le premier verset et le deuxième. Allons-y encore une fois de plus. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Je prie que cette grâce, ici on parle de Macédoine, mais j'aimerais qu'à la fin de cette semaine et pour la suite, on parle de la paroisse de la CBCA Gomaville. Amen. Paul a parlé des églises de Macédoine, mais il faut qu'à un moment donné, dans les annales de l'histoire de l'église, on parle de cette paroisse. Amen. Parce que le contact avec la parole de Dieu ne peut pas nous laisser indifférents. Reprenons encore ce premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2e. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Amen. Peu importe les circonstances, Peu importe les événements, on pouvait toujours retrouver dans cette église des hommes et des femmes qui avaient la joie et qui avaient la capacité d'agir, d'abonder en libéralité. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler d'une vie diaconale. Enfin, le dernier texte pour ce matin, allons dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Tout cela est construit autour de notre premier texte, 1 Pierre chapitre 2. Ésaïe 58, j'aimerais qu'on lise ce texte, il est bon, il est merveilleux. Nous allons lire à partir du verset 6e. Un texte bon, le prophète Ésaïe parlant à Israël. Si nous avons trouvé dans notre Bible, je nous demande un dernier effort de lecture ensemble. Ésaïe chapitre 58, le verset 6 au verset 12e. Allons-y tous ensemble. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Vous voyez, quand Dieu parle à Israël, il est en train de décrire les choses qu'il veut voir au milieu de son peuple. Alors, cette conséquence au verset 8, il dit, alors, je vais parler de cela pendant la semaine, une vie diaconale produit des résultats dans la vie des hommes et des femmes qui sont trouvés fidèles. Amen. Continuons le verset 8e. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelle est la récompense des hommes et des femmes fidèles à la vie diaconale s'attache à ta vie déjà ce matin. Alors que nous sommes encore au début de cette merveilleuse semaine, ma prière est que la récompense de Dieu qui est prévue pour des hommes et des femmes vivant une vie diaconale sainte et parfaite soit visible et réelle dans ta vie. Alléluia. Reprenons le verset 8e. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, écoutez la suite, ta lumière se levera sur l'obscurité. Laisse que Dieu vous donne d'être au-dessus des ténèbres qui sont dans cette génération aujourd'hui. À cause de votre connexion à ce que Dieu veut que vous puissiez vivre. Il continue, et tes ténèbres seront comme hein, le midi. Frères et sœurs, les ténèbres peuvent couvrir la terre, mais toi tu peux te retrouver en train de marcher dans la lumière. Parce que Dieu est capable de créer pour vous une saison dans une situation compliquée. En Égypte, ils sont en servitude, ils sont en captivité. Mais Dieu dit à Israël, ce mois-ci sera le premier des mois pour vous. J'aimerais dire simplement ce matin à quelqu'un, quand tu te connectes aux objectifs de Dieu, Dieu peut créer une autre nouvelle saison pour toi dans une saison existante. Tu n'es pas obligé de vivre ce que le monde est en train de vivre. Il est simplement question que tu te connectes à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! Il peut créer midi dans le ténèbre pour toi. Il dit, si tu te connectes. Écoutez le verset 11e, la suite toujours des hommes et des femmes attachés à la vie diaconale. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Je suis en train de dire, on peut être dans un lieu aride, mais Dieu te donne ce qu'il faut. Alléluia. En réalité, en tant qu'enfant de Dieu, même dans le désert, Dieu peut te donner la fertilité. C'est ce qu'il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. et il te rassasiera dans les lieux arides. Continuons la suite. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le verset 12 est intéressant. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras de fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? La vie diaconale est une stratégie de Dieu, est une approche de Dieu qui permet que l'environnement dans lequel nous sommes soit habitable. Il y a des actes que toi et moi nous pouvons poser de la part de Dieu qui viennent consoler un cœur. Il y a des actes que toi et moi nous pouvons poser de la part de Dieu et qui font que quelqu'un retrouve le sourire. Et pendant cette semaine, j'aimerais aborder 7 points par la grâce de Dieu et selon la disponibilité que nous aurons. Le premier point, j'aimerais que nous parlions du but ou même de la raison d'être de cet enseignement. On veut nous parler de la vie diaconale, sainte et parfaite. Pourquoi? Parce que quand nous comprenons la raison d'être ou la nécessité, nous pouvons nous engager. Si nous pouvons beau prêcher ici, mais à la fin, quelqu'un ne comprend pas pourquoi, ça va être comme une perte de temps. Mais lorsque tu vas comprendre pourquoi Dieu veut que dans mon église, pourquoi Dieu a inspiré à notre pasteur le sujet de la vie diaconale, si je comprends le pourquoi, le fondement biblique, alors même à l'absence du pasteur, toi-même tu vas t'engager. Alléluia. Il y a certaines choses que parfois nous faisons dans les églises parce que je vois le pasteur, parce que je veux plaire au pasteur. Mais il y a une autre dimension d'engagement quand tu comprends et que tu sens que c'est Dieu qui te le demande. Tu n'as même pas besoin de regarder qui a commencé, qui n'a pas commencé. C'est toi qui commences le premier. Et ce matin et pendant toute la semaine, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi, quelle est la nécessité, pourquoi la vie diaconale. La deuxième chose, peut-être à partir de demain, nous allons commencer à parler de la signification large de la vie diaconale. Quand on veut parler de la vie diaconale, de la diaconie au sein de l'Église, parmi le peuple de Dieu, ça peut signifier quoi? Est-ce que Nkukamata Tumaragi, tu n'as pas distribué quelque part, bibliquement parlant, qu'est-ce que ça signifie? La troisième chose, je vais parler de la pensée et la méthode de Dieu sur la vie diaconale. Nous allons aller à travers la Bible pour voir certaines expériences. Comment des hommes et des femmes qui nous ont précédés ont aussi vécu et même comment est-ce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. La quatrième chose, nous allons parler des obstacles. Des obstacles. Pierre, lorsqu'il parle à Israël, lorsqu'il parle à la première église, il est en train de dire il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Il dit, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de plaire à Dieu. Et nous allons parler des obstacles qui peuvent nous empêcher de vivre réellement une vie diaconale sainte et parfaite. La cinquième chose, par la grâce de Dieu, nous parlerons des formes d'expression. Comment nous pouvons exprimer une vie diaconale? En d'autres termes, comment nous pouvons réellement vivre cette vie diaconale dans notre temps, dans notre génération? Et au sixième point, et qui sera le dernier, nous parlerons des attentes de Dieu. Je vais parler des bénéfices, des promesses qui s'attachent aux hommes et aux femmes réellement qui sont obéissants et qui vivent la vie diaconale. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si Dieu nous y amène, par sa grâce, nous allons faire une conclusion. Alors ce matin, pendant quelques minutes, je voudrais parler du but ou de la raison d'être de cet enseignement. Pourquoi faut-il en parler ce matin et toute la semaine? Je vais noter avec vous 4 bonnes raisons. 4 bonnes raisons. 4 bonnes raisons pour lesquelles il faut réellement nous engager dans la vie diaconale. Alors, faute de temps, je ne reviendrai pas dans le verset biblique, mais tout ce que je serai en train de dire tire son fondement dans les textes que je vous ai présentés. La première chose, pourquoi faut-il parler de la vie diaconale? La première raison, la vie diaconale est un appel de Dieu pour tous les chrétiens. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'appel de Dieu? Parler de la vie diaconale au sein d'une église, nous voulons nous rappeler que Dieu nous appelle. C'est un appel de Dieu. La Bible est en train de dire que vous êtes une race qui a été mise à part. Vous êtes un peuple qui a été acquis, l'Église aujourd'hui. Enfin que nous soyons ces personnes qui annoncent les vertus de Dieu. Quand on parle de vertus, souvent c'est dans deux directions, même trois directions. La première chose, ce sont les valeurs. Ça veut dire que quand quelqu'un voit un chrétien, il retrouve les valeurs du ciel. Les valeurs de justice, les valeurs de compassion, les valeurs d'amour. La deuxième direction, quand on parle de vertu, ça veut dire les grandes choses de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut accomplir au milieu du peuple dans le monde, mais il va passer par des hommes et des femmes, par l'Église. C'est là que Pierre est en train de dire, Dieu vous a mis à part, afin que par vous, il accomplisse des choses. Et quand vous allez dans Éphésiens, Paul était en train de dire, nous sommes son ouvrage, il nous a créés afin que nous accomplissions des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Il les a prévues à l'avance. Donc la première bonne raison pourquoi nous devons parler de la vie diaconale, c'est parce que le Seigneur nous appelle tous à être ses serviteurs et servantes dans la communauté. Il faut que par toi et par moi, Dieu passe. Alors quelle est la conséquence de cette première raison? Quand, par exemple, mon église peut organiser une action diaconale, ou si l'église, le pasteur, le berger qui nous conduit, dit que chaque famille fasse ceci ou cela, ou que chaque chrétien de l'église, de la paroisse, fasse telle chose, telle autre chose, en termes d'expression de vie diaconale, nous ne sommes pas forcément d'abord en train d'obéir au pasteur, mais nous sommes en train d'obéir à une instruction divine. Alléluia. La vie diaconale, mener une vie diaconale, et nous allons revenir sur sainte et parfaite, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est d'abord un appel divin, c'est d'abord un appel de Dieu. Je peux aller par extension pour dire c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que nous puissions mener cette vie parfaite et une vie qui est sainte dans sa dimension de diaconie. J'aime ce texte. Dans Genèse chapitre 12, vous voyez l'appel d'Abraham. Dieu est en train de dire, il dit, va-t'en de ton pays. Il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Dieu appelle quelqu'un. Ça se connecte un peu à 1 Pierre chapitre 2, où il dit, vous qui n'aviez pas droit à la miséricorde, vous qui étiez étrangers, Dieu vous a rapprochés. Afin que par lui, qu'à travers vous, Dieu atteigne certains objectifs. De la même façon, quand vous voyez l'histoire d'Abraham, c'est quelqu'un qui vivait dans le paganisme. On parle souvent que le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Dieu l'a tiré de l'idolâtrie afin que par lui, plusieurs, il dit que tu sois une source de bénédiction. En fait, l'appel à une vie diaconale, c'est un appel divin qui fait de toi et de moi une source de bénédiction dans notre environnement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet appel divin? Frères et sœurs, la beauté ou même le secret qui est caché dans cette première bonne raison, quand il dit « je ferai de toi une bénédiction », tu ne peux pas être une bénédiction si toi-même tu n'es pas béni, n'est-ce pas? Ça veut signifier quiconque se connecte à cet appel, lui-même il est en train de se connecter au robinet. Parfois tu n'as qu'on ambia mungu unibariki. Est-ce que si Dieu te donne, tu vas accepter d'être le tuyau par lequel la bénédiction de Dieu atteigne les autres? Il dit « je ferai de toi » une source de bénédiction. Tchemtchemu ya baraka. Avant que même le baraka itoke mtchemtchemu, tchemtchemu ya mwenye mekwa kwanza arrosé. Laisse que Dieu arrose ta vie afin que toi-même tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. Ça veut dire l'appel à une vie diaconale, c'est un appel à se connecter à Dieu qui est la source de la bénédiction. Dans la plupart des cas, quand ce genre d'enseignements sont donnés dans les églises, il y a des gens qui sont stratégiques, trop réfléchis, botera maranja kusa ma poche zet, ou le pasteur qu'on a vasi à poche zet. Non, c'est plutôt un appel à se connecter à la source qui est Dieu lui-même. La Bible déclare, celui qui arrose sera comment? Lui-même arrosé, c'est la Bible. La deuxième bonne raison, la vie diaconale, c'est un ministère. Quand nous parlons du ministère, nous parlons d'un service que nous rendons à Dieu. Et la dimension diaconale du ministère, c'est beaucoup plus un service que nous rendons à Dieu à travers les hommes. La première fois qu'on a commencé à parler des diacres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes chapitre 6. Lorsque les apôtres ils se sont sentis débordés, ils ont dit, nous avons besoin que vous puissiez établir des personnes, et on a donné même des critères, on y reviendra pendant la semaine, afin qu'ils puissent s'occuper de la prise en charge du peuple, au-delà de la prière, au-delà de la prédication, la parole qui était prêchée avec puissance, avec autorité. Les apôtres ont compris que l'homme, il n'est pas simplement esprit. L'homme, c'est un tout l'être humain. Donc il faut, au-delà du fait qu'on proclame la parole, du fait qu'on proclame, on fait de bonnes prières, il faut regarder l'homme dans tout son ensemble. Et les apôtres étaient très attentionnés par la situation de ceux qui étaient dans le besoin. Et nous parlons donc de la vie diaconale comme l'engagement dans un ministère. J'aime quand Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 25, si vous lisez à partir de 35 et vous descendez, il est en train de dire à ses disciples, il donna une parabole, il dit j'ai eu faim. Et dans la première partie, il dit, vous m'avez donné à manger. Dans la deuxième partie, il dit, vous ne m'avez pas donné à manger. Et il dit, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, j'étais malade, j'étais souffrant. Et les gens posent la question, mais Christ, à quel moment nous t'avons vu malade? À quel moment nous t'avons vu malheureux, souffrant? Il dit, effectivement, quand vous avez posé des actes à ces personnes, il les appelle mes petits frères. Il dit, c'est à moi que vous le faisiez. Alléluia. La dimension diaconale, comme un ministère qui prend en charge l'être humain dans sa dimension holistique. Vous savez que dans mon métier de pasteur, je me suis rendu compte que nous pouvons être dans cette assemblée, et c'est vrai, nous adorons tel que l'union musicale nous a conduit dans la célébration. Est-ce que vous savez qu'à la fin de ces cultes, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous sommes dans le même bâtiment, dans le même temple, priant le même Dieu, célébrant le même Dieu. Ceux qui ont la force, ils sautent même. J'ai beaucoup aimé comment les conducteurs sautaient ici. Est-ce qu'on peut apprécier l'union musicale pour le grand travail? Mais au milieu du même peuple, il y a parfois des situations différentes, un décalage de vie. Et quand on nous enseigne la dimension, la vie diaconale, c'est cette capacité de voir au-delà des chants, de voir au-delà des prières, de voir au-delà de la parole et de dire, quelle est la situation de mon frère? Qu'est-ce qui se passe dans mon église? Et Pierre, il va plus loin. Il dit en réalité, les païens, il dit, ayez une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Quand la personne peut être en contact avec l'Église, dit réellement, la paroisse Gomaville, ce sont les enfants de Dieu, à cause des actes que nous posons. Et la troisième bonne raison, nous avons dit que la deuxième bonne raison, la vie diaconale, c'est un ministère. C'est-à-dire, nous tous, l'Église est en train de nous amener à cette dimension de service pour Dieu et dans toutes les différentes directions. La troisième bonne raison, j'aimerais parler rapidement, la vie diaconale est une stratégie de Dieu pour répondre aux besoins, aux défis et aux souffrances des humains. Je vais reprendre cette pensée. La vie diaconale est une stratégie de Dieu pour répondre aux besoins, aux défis et aux souffrances des humains. Frères et sœurs, vous n'avez pas idée. La troisième raison, elle se connecte à la précédente. Je parlais du ministère. La réalité de la vie montre que nous pouvons vivre dans la même époque, sur un même territoire, mais ne pas vivre la même saison de la vie. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Nous allons sortir ici. Nous sommes tous dans ce bâtiment, dans ce temple. Mais parmi nous, il arrive dans son frigo, chakule na ozi andani. Na kuko mwingine mwenye anatoka hapa tu maabudu naisha, aranja piga calcul. Sasa niende na mugulu wala hizi za mugulu njoo zenye ndauza nazo kijumba sa mrafika kunyumba. Pour l'autre, il a même déjà un bord de carburant na mchunga tu kule. Il n'a juste pas l'état de consommer tout le carburant dans sa voiture. Mwingine kuna jiuliza sasa ndafika kule katindo na mura gani. Parfois, on a qui on balift. Il y a même des frères dans l'église, seulement parce qu'ils ne veulent pas transporter quelqu'un comme ça. Alors que réellement, tu vas comme ça. Où est la vie? Vrai ou faux? Bon, ok. En tout cas, ce n'est pas ici. Moi, c'était dans une assemblée. On m'a privé un lift parce qu'on ne voulait pas seulement que Nicole et moi les gardent. On nous parle de la vie diaconale, avoir l'attention sur l'autre. Il y a même quelqu'un qui au volant a fait semblant comme si Abaone, a fait semblant. Et nous sommes tous dans la même famille des enfants de Dieu. Et Paul, Pierre, quand il écrit, il dit, afin que les païens, lorsque Dieu le visitera, ils vont commencer à repenser comment vous vivez. Il dit, non, Abakabi, Sabachakutanana Namungu. Alléluia. Nous pouvons être au même endroit. Nous pouvons être dans un même bâtiment. Nous pouvons être dans la même ville. Mais nous ne sommes pas en train de vivre les réalités de la même façon parce que les saisons diffèrent. Et dans la famille de Dieu, celui qui est dans une saison de verdure, il doit soutenir ceux qui sont dans la saison de sécheresse. Quand vous prenez par exemple un jardin, on peut avoir les manguiers, on peut avoir les avocatiers, on peut avoir les orangiers. La vérité c'est que il m'a fruits autres comalia que limoin. Chaque fruit a sa saison. N'enseigne ni ma avocat, tu n'as qu'à tu n'as chukur mungu Dieu à ma avocat. Quand ça devient les orangiers nous servent tous. En fait, j'essaie d'utiliser cette figure pour dire Dieu a fait la vie avec des saisons et l'intelligence divine en fonction de cette dimension de vie diaconale devait permettre que nous puissions créer l'équilibre de la manière dont Dieu peut nous conduire afin que les uns et les autres nous vivions la grâce de Dieu. Amen. Je suis en train de parler de la vie diaconale comme stratégie de Dieu pour répondre aux besoins, aux défis et aux souffrances. Frères et sœurs, si vous n'avez pas de souffrances ici, il y a des familles à souffrance. Non seulement à Inge, même à l'église, il y a des familles à problème, il y a des bien-aimés en difficulté. Il y a quelques années, quand j'étais étudiant, vous savez, parfois, tu peux voir un frère qui est à culte, à l'époque, j'étais conducteur de culte, je sautais, mais en réalité, c'est un frère académique. Donc, si on a malise à Ibad, on a sandali pas. Mais gloire à Dieu, un jour, je finis, c'était en troisième année de graduat à l'époque, j'avais un souci, et des frères académiques, et même pour rédiger ce qu'on appelait le Kamandjo travail d'effet de cycle, TFC. La génération allait au Kamani TFC ou quoi, je ne sais pas. Vous savez, il y a des parents actuellement, vous avez des ordinateurs chez vous, les enfants peuvent jouer avec des tablettes, nous autres, pour aller saisir le TFC. Sur la fin, il y a un kilomètre. Alors, un jour, je finis le culte, je vois un frère qui n'est ni de ma tribu, qui n'est ni de Goma. À l'époque, il venait de Kinshasa pour travailler, je ne sais pas, dans un programme comme la réinsertion, tout ça, de démobiliser. Il dit, frère, ça fait trois fois que je suis dans ce culte. Et quand tu conduis le culte dans cette église, je suis béni. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu me demande de te demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'est mi et kabis. Faire quoi? Seigneur, mi la tia maramoua liste parle, ni ko étudia papa. On y saïdi et tout. Mais ce souvenir ne m'a jamais quitté, ni de ma tribu, ni de ma famille, ni de Goma, mais que Dieu nous donne cette famille. Alléluia. Où tu peux regarder un frère, où tu peux regarder une sœur, tu peux regarder une famille, et que l'esprit te convainc de faire quelque chose, fais-le. Et parfois, on n'a même pas besoin de la conviction du Saint-Esprit. Undugu anatese kanastaili, musaada ya imungu. Oh, Baba, vraiment, priez pour moi. Nous, les pasteurs, tu n'as pas tant que ma demande. Bah, si pasteur, mais là, qui a ombre. Mais si on a si qui a ma ombre, qui a besoin, tu as tchakoul. Comme on a 10 dollars en partie, c'est un d'où tu tchakoul à biché par. Namou, bah, tu ombre, tu n'as pas tout gagné. Hakou n'a pas ombre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vie diaconale, une stratégie de Dieu pour répondre aux défis, aux besoins et aux souffrances. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 61, le verset 1er jusqu'au 3e. J'aime ce texte, on peut le lire ensemble. Ésaïe 61, je serai en train de terminer tout à l'heure. 61, le premier verset jusqu'au 3e. Le média, si vous l'avez, vous pouvez le projeter, mais chacun peut l'avoir dans ce texte. Allons-y ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il texte dans ton cœur, il y a des malheureux qui sont dans notre environnement. Il dit, il m'a envoyé pour faire quoi? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez la paix et la joie dans votre cœur, la vie diaconale, c'est cette capacité de faire de nous des personnes qui peuvent aller guérir des cœurs brisés. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté et la suite, et aux prisonniers la délivrance. Frères et sœurs, peut-être tout le monde, regardez seulement nos familles. Moi, actuellement, je suis en train de lutter avec une situation de maladie dans ma famille. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, nous allons prier pour le malade. Il faut que la guérison vienne. Je fais face à des situations de pauvreté. Je peux bien manger chez moi à la maison. Ça, ce n'est plus un problème. Mais je regarde, qu'est-ce que tu fais? À quoi Seigneur a mené ma situation? Mais c'est compliqué. Et qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Tu as dit, nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Il faut que nous puissions communiquer la vie de Dieu par la vie diaconale. Il faut que des choses changent dans notre environnement. Les chrétiens passifs qui acceptent certaines réalités comme normales. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Cette semaine, il faut que quelqu'un soit révolutionné pour dire, ça doit changer. Et ça change d'abord à l'église, dans nos familles et ensuite dans l'environnement. Il y a des choses que nous devons refuser, frères et sœurs. C'est un mais tout funga match. Il y a même des gens qui disent, il m'a gonjoyé, tu as moujama. M'a gonjoyé, il y a nini. Bon, si c'est ma masikini, à quoi? Non, on a biblia, si c'est ma masikini, à pana, ni saison, mais à tout comme ma masikini. Je peux être pieds nus maintenant, je peux manquer des chaussures maintenant, mais il n'est pas prévu que je termine ma vie dans la honte, dans l'humiliation. Alléluia. Il y a des choses, frères et sœurs, que nous devons refuser. Il dit, et aux prisonniers la délivrance. Continuons le verset deuxième. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Vous savez, quand vous lisez ce texte, on parle les affligés d'où? De Sion. Sion représente le peuple de Dieu. Ça veut dire, même au milieu de nous, on peut avoir des personnes qui font semblant d'aller bien, mais ne marchent pas bien. Il dit, les affligés de Sion. Ça veut dire, les affligés au milieu du peuple de Dieu. Plaise à Dieu qu'il ouvre nos yeux sur la réalité. Il dit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Nous reviendrons sur ce texte au courant de la semaine. En fait, je suis en train de parler de la troisième bonne raison. La vie diaconale est une stratégie de Dieu pour répondre aux besoins, défis et souffrances des humains. La première chose que je dis sous ce point, la réalité de la vie montre que nous vivons dans le décalage des saisons. La Bible montre qu'il y a clairement des personnes en souffrance et qui ont besoin du soutien. Mais la troisième bonne chose que j'aimerais dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, retenons ceci. Si Dieu veut faire du bien à un être humain, il ne va pas utiliser un arbre. Si Dieu veut me faire du bien, si Dieu veut faire du bien à papa, je vais dire, Dieu va utiliser un être humain comme toi. Alléluia. Je sais qu'exceptionnellement, Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir son serviteur. Mais dans la plupart des cas, nous sommes les mains, nous sommes les pieds, nous sommes la bouche, nous sommes les canaux par lesquels Dieu veut bénir les autres. Alléluia. C'est pourquoi ne nous retenons pas trop. Si Dieu veut faire... Écoutez, il dit par exemple à son serviteur, va voir la Tsunamite. Ça dit, va vers cette femme-là. Je l'ai préparée. C'est elle qui a quelque chose pour toi. Hein? Devant une grande foule qui le suivait, et les disciples viennent et disent, ils ont faim, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Et effectivement, quand ils ont commencé à réfléchir, ils se sont rendus compte qu'il y avait du pain et des poissons au milieu d'eux. Qu'avons-nous qui peut nous aider à être une solution aux besoins des uns et des autres? Quand nous parlons par exemple de béatitude dans Matthieu 5, heureux ceux qui donnent la paix. Heureux ceux qui sont miséricordieux. On reviendra. Ça veut dire, le Seigneur montre que la solution des êtres humains, il le fait passer par ceux qui sont dans votre génération. Que Dieu nous fasse grâce. La dernière chose, nous allons terminer par là. La vie diaconale sainte et parfaite a des exigences. Pourquoi devons-nous parler de cela? Parce que la vie diaconale a des exigences. Nous avons parlé de la vie diaconale comme un appel divin. Nous avons parlé de la vie diaconale comme un ministère que nous rendons à Dieu. Et je peux aller par extension, le ministère que nous portons ou que nous rendons à Dieu, c'est comme une offrande, c'est comme un sacrifice. C'est comme cela que, par exemple, la Bible dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Les choses que nous faisons pour Dieu, c'est du sacrifice. Quand Dieu il inspire les apôtres pour dire « Choisissez les diacres », dans Actes chapitre 6, il est en train de dire « Des personnes jouissant d'un bon témoignage ». Ensuite, il dit « Plein du Saint-Esprit ». Et la troisième chose, c'était quoi? La sagesse. Donc, pour mener une vie diaconale, il y a des exigences. J'aimerais clôturer pour ce matin, afin que la semaine prochaine, disons demain, nous continuions. Je m'arrête ici pour dire et résumer mon exhortation, ma prédication de ce matin en quatre points. La vie diaconale est une nécessité, c'est un besoin urgent. Le monde en a besoin, l'Église en a besoin. Deuxième chose, Dieu attache une récompense à ceux et celles qui sont fidèles et obéissants. Quand nous étions en train de lire Ésaïe 58, vous avez vu les conséquences. Voici les jeunes que je veux. Et alors, nous reviendrons sur les alors. Il y a tellement de choses. La troisième chose, pour résumer, la vie diaconale, c'est un complément important au ministère de la prière et de la parole. Parce que la vie diaconale rend agréable même les choses que nous prêchons. La vie diaconale permet de vivre, de matérialiser les vérités bibliques que nous avons chaque jour dans nos églises. Enfin, la vie diaconale, c'est un appel de Dieu à rejoindre la grande moisson du Seigneur. Il a dit, Jésus voyait la foule, il était ému de compassion. Il a vu la foule, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce matin, j'aimerais vous demander humblement pendant une minute, est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier pour cette grande semaine qui commence. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens, suis-moi. Oh, je réponds, oh Sauveur fidèle, mais voici. Est-ce qu'on peut encore chanter? La voix du Seigneur m'appelle ce matin. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix. Viens, suis-moi. Ah oui, je réponds. Sauveur fidèle. Mais voici. Alléluia. Ah oui, jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais. Oh, à ta peau, mourir, revivre, et toi. Est-ce qu'on peut encore crier? Jusqu'au bout, moi je te suivrai, Jésus. Jusqu'au bout, oh, je veux te suivre dans le bon, dans le bon. À toi pour mourir, vivre, à toi, Levons nos mains vers Dieu. Je veux prier le Seigneur. Baba katika jina la Yesu. Ce matin, nous sommes devant toi. Oh Dieu, merci pour ce peuple. Tous ensemble, nous venons devant toi. Tu as dit, vous êtes une race élue. Tu nous as élus, Seigneur. Oui, je veux que chacun prenne conscience de l'élection divine sur sa vie ce matin. Tu as dit, vous êtes un sacerdoce royal, homme et femme qui reconnecte le monde avec le ciel. Oui, Seigneur, merci, un sacerdoce royal. J'aime quand tu dis dans ta parole, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Dieu. Cette semaine, oh Dieu, je veux que tu parles au cœur de chacun. Il y a quelque chose que chacun d'entre nous peut faire en commençant par nos familles, en passant par l'Église et en allant dans le monde entier. Je veux que nous soyons les dispensateurs des grâces de Dieu, les canaux par lesquels la provision divine atteint les malheureux, le canot par lequel, oh mon Dieu, la provision divine atteint ce malade, la provision divine atteint ces opprimés, les affligés, les veuves, les orphelins, les personnes sans secours, les personnes qui sont même prêtes à se suicider parce qu'ils n'ont personne. Oh Dieu, fais que nous nous levions. Ouvre les yeux de quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un cette semaine, enfin que nous fassions quelque chose. Écrivant par rapport aux églises de Macédoine, il a dit, Paul, malgré les tribulations, malgré leur pauvreté, ils pouvaient se lever en guise de poser des actes de libéralité. Seigneur, merci ce matin. Nous commençons cette semaine, je crois à ta grâce, je crois à ta puissance. Je prie surtout que ta parole s'accomplisse dans notre vie. Toute la semaine, mobilise ton peuple. Beaucoup plus, parle à nous tous, y compris moi-même, afin que nous sortions de cette semaine reprogrammés et préparés, équipés pour être des hommes et des femmes qui vivent pleinement la vie diaconale, sainte et parfaite, telle que tu l'as communiquée, orientée à ton serviteur, l'ange qui veille sur cette église. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Que Dieu nous bénisse.